C'est un honneur ou bien c'est une corvée?
Ah non, mais c'est pas ni un honneur ni une corvée, c'est parce que j'aime bien ces gars-là, donc moi j'aime pas être président de rien du tout, comme disait Frédéric Dard, mon ami, président de mes couilles, président de ceci et de cela. Vous comprenez, ça, tous les présidents sont, j'allais dire,
on n'en
pas vraiment parlé de con tout à l'heure, non. Être président, c'est une façon d'être prétentieux, d'être dirigiste, etc. Non, moi, je suis pas président, il y a 8 films, c'est pas une grande corvée, comme vous dites, parler de corvée. Voir 8 films décalés, des films indépendants, c'est agréable et c'est assez facile de choisir sur 8 films. Hein. C'est pas 35 films ou 45 films.
Ouais,
non, je suis président parce que j'aime bien Moustique, j'aime bien Delepine, j'aime bien ces gens-là. Et bien avant de venir ici, je regardais leurs émissions. Ce sont des gens libres, des gens qui sont un peu comme moi, des gens un peu en dehors de la...
Je veux dire, il y a des points communs, là.
Voilà, on n'est pas trop people.
Impertinent.
D'ailleurs, c'est dommage que je ne sois pas people, parce que peut-être qu'on parlerait plus de ce festival. Je viens de voir le journal d'aujourd'hui, Courrier Picard, il y a une toute petite photo. C'est pas grand-chose, hélas. Bon, mais...
La culture n'existe que dans un sens. Hein.
Ils ont fait un numéro spécial hier.
Alors, excusez-moi, je n'ai pas vu. Bon, alors,
mais sinon, il y a Radio Campus Lille qui est présent. Radio Campus Lille.
C'est mon acte de contrition. Moi, je n'ai vu que le journal de ce matin. Donc, j'ai vu une petite photo. J'ai dit, tiens, ils n'accordent pas trop d'importance. Bon, hier, j'ai vu le conseiller général, le maire, tout le monde. J'ai vu et souhaite que ça marche longtemps.
Il faut leur remercier, justement, parce que la région Picardie, même la région Picardie et le département, c'est quand même une...
Ils ont aidé.
100 000 euros.
C'est déjà
100 000 euros.
Mais vous savez combien le gouvernement français donne à certains films du public, enfin de ce qu'on appelle la télé publique. Donc c'est des sommes colossales.
Bien sûr,
colossales, qui sont la somme des redevances que nous payons. Et donc nous sommes en quelque sorte producteurs de toutes les conneries qu'on peut fabriquer, et pas forcément dans nos télévisions, un peu partout. Quoi.
Et pour avoir vogué pendant de nombreuses années dans ce milieu-là, vous savez de quoi vous parlez.
Oui, je sais. Non, là, je viens de tourner pour France 2 un très grand film, mais il s'appelle Colère, et en principe, c'est un film qui n'aurait pas dû être tourné par France 2. Alors, je remercie Patrick Duhamel de l'avoir fait, parce que c'est vraiment le truc qui m'a étonné qu'il fasse, parce que les personnages sont très durs, et le sujet est très dur.
Il sera diffusé?
Ah ben, il est diffusé en décembre. C'est un film qui s'appelle Colère. Donc, vous voyez, ma colère est éternelle. Et donc, mon film pour France 2 s'appelle Colère.
Et ça va être du vrai moquis
Là, en principe, ça va chauffer, quoi. C'est un film dur surtout sur quelque chose qui me désole, un grand problème. C'est des indemnisations aux ouvriers qui ont été brûlés, l'amiante, le machin. Bon, aussi les patrons, les gens qui virent des patrons, des employés.
Pour l'absurde.
Comme des... Oui, des vires. Oui, remarquez.
Ça devrait exister.
Oui. Bon, on en vire aussi quelques-uns, mais bon.
Pas assez.
Et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans la situation. Alors, de toutes ces usines, il y en a quelques-unes dans la région dont j'ai entendu parler hier, mais dont j'avais déjà entendu parler, Goodyear, Continental et autres. Et le fait, et la Poste, alors la Poste, grand problème, tous ces gens à qui on dit à 50 ans, vous êtes une merde, allez vous faire foutre, vous étiez sous-directeur, vous devenez archiviste dans une cave, etc.
C'est
horrible,
Télécom, ça,
et alors ça amène évidemment ces suicides en masse, et c'est un grand sujet contemporain, c'est-à-dire la façon dont c'est broyé, ça me fait penser à Kafka, au procès de Kafka, des choses comme ça. Ça devient terrible, cette histoire de ces gens qui sont torturés. On dirait même presque de la torture, quoi. Torture morale qui aboutit, pour les plus faibles, à des actes de suicide et autres.
Inhumain, oui.
C'est un grand sujet, ça aussi. Un grand sujet.
Et ça, donc, ça fait partie du film Colère qui
sera... Ça fait aussi un peu partie de ça. Vous voyez aussi, c'est les employés qui séquestrent des patrons parce qu'ils en ont marre, ils ne peuvent pas parler avec eux, donc ils finissent par les séquestrer.
Ouais, ils sont encore gentils.
Et on arrive aujourd'hui à des situations américaines, j'allais dire américaines, dans la mesure où en Amérique, Les raisins de la colère de Steinbeck et beaucoup de films de ce type ont déjà montré cette lutte des ouvriers contre les patrons. Et en France, ça a été un peu long. Et il y a peu de films qui se font. On fait beaucoup de comédies. On baise sa femme de ménage, on baise son voisin. Mais on ne parle pas de ces trucs-là. Et Moi, malheureusement, j'ai fait ça. Je dis malheureusement parce que c'est pas un domaine où, qui rapporte beaucoup, hein, ah, de
c'est
spectateurs.
Pas porteur, oui,
ça, c'est et c'est pour ça que Colère, je l'ai fait pour la télé, parce que je sais qu'au moins, même si le truc marche pas, il y aura au moins 3 millions ou 3 500 000 spectateurs. Alors que pour les atteindre au cinéma avec un thème comme ça, il faudrait des années, 100 ans.
Dans Ville à vendre, vous aviez déjà traité ce...
Ville à vendre, c'était l'horreur des cobayes humains. Alors, on parle de don d'organes, ce qui est très beau, de donner son organe à quelqu'un qui, quand on meurt, de permettre à quelqu'un d'autre de vivre. Mais ce qui est tragique, c'est ces laboratoires qui gagnent plein de pognon. Ils vont en gagner maintenant avec la grippe. Ah, ça, je ne sais pas qui est-ce qui va empocher
l'argent. Les masques à 14 euros.
Il va y en avoir, là, de l'argent à gagner, là, avec tous les trucs, les masques, même les trucs pour laver les mains. C'est vrai que ça coûte cher de se laver les mains.
En rupture de stock, d'ailleurs.
Avec un truc, là, machin, 2 euros pour se laver les mains avec je ne sais pas quoi, d'ailleurs, c'est du savon.
Un produit fabriqué dans les laboratoires.
Solution hydroalcoolique. Voilà. Non crache dans le main.
Voilà, c'est Ville à vendre.
Après les soirées, on crache dans les mains.
Non crache dans le main, donc ça va.
Ville à vendre.
On est hydro et
dans les mains des voisins, c'est mieux.
Ville à vendre a attaqué, si vous voulez, la vallée. La fameuse vallée de Lorraine où tout a sauté. Eh bien oui, parce que moi, quand je suis arrivé dans cette région, la première chose que j'ai fait avec ma caméra, c'est de filmer des usines qu'on faisait sauter. Alors on attendait dans un coin, puis l'usine sautait. Et ils ont tout détruit parce qu'il fallait détruire pour licencier. Donc ils ont enlevé des usines entières. Et comme ces gens étaient au chômage, les laboratoires, je dirais Luxembourg, je dis luxembourgeois parce que c'est quelque chose d'international, c'est un paradis fiscal.
En fait, ils n'ont pas de
nationalité,
ils n'ont pas de fratrie, ces gens-là.
En même temps, il y a énormément de laboratoires pharmaceutiques dans ces régions-là et ils prenaient des cobayes humains. Ils essayaient des médicaments. Normalement, c'est des animaux. Il faut 10 ans pour qu'un médicament soit homologué. Ouais. Et quand on arrive à faire des cobayes humains et dire ben, « ça marche », eh bien, ça gagne beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Et même des étudiants à Paris, je les voyais, on leur donnait 120 euros, on leur filait des piqûres
sans
pour la journée, etc. C'était tellement dégueulasse que finalement, j'en ai fait un film. Ouais, ouais. Et alors, figurez-vous que ce film, qui avait 15 vedettes quand même, de Serrault, bon, Inger, Eddie Mitchell, Jacqueline Maillan, etc., des Santé, Daniel Prévost, tout ça... Ben, ce film a été boycotté de la façon suivante. Il a été présenté, alors que c'était une coproduction avec TF1, à minuit le lundi de la Pentecôte, pour la première fois. Et ça, j'ai appris après que c'était l'influence des fameux laboratoires qui ont dit « Putain, vous n'avez pas passé ça, c'est horrible, on passe pour des assassins, etc. »
Et depuis, ça n'a jamais été rediffusé en
Si,
télé.
C'est diffusé de temps en temps maintenant sur des chaînes dites câblées. Donc avec moins de spectateurs, mais il est rediffusé parce que le producteur, c'était Alain Sartre, qui est un grand producteur, et donc il le vend. Hein. Alors voilà, il est diffusé, il est en DVD, le DVD a fait 32 000... exemplaire, ce qui est un boom pour un DVD, mais parce que les gens ne l'avaient pas assez vu, et donc ils l'ont vu. Voilà.
Alors, Groland, c'est du cinéma, mais c'est aussi des expositions, dont l'exposition de Rémy. J'ai aperçu que tu étais...
Ah ben oui. Non, mais Rémy est un grand artiste. Voilà, un grand artiste, et un artiste, c'est un enfant. Moi, j'aime bien les artistes enfants. C'est-à-dire le gars qui fait des petits... Vous savez, il a des manivelles et alors...
Ouais, c'est ça,
il fait des petits trucs, le chien qui est en train de chier, le truc.
Des petites animations.
Et ça fait partie, si vous voulez, l'œuvre d'un homme qui est resté un enfant et qui fait ça toute la journée. C'est formidable d'en arriver à pouvoir faire ça. Et ces dessins qui sont géniaux, c'est des dessins... Mais moi, je connaissais bien tout Rezer qui était mon ami, et tous ces gens-là qui ont cette plume acide de faire des petits dessins qui veulent dire beaucoup de choses. Et esthétiquement, son exposition est très belle, elle est très, comment dire, à la fois, elle est feutrée, on la voit, elle est dans un endroit un peu sombre, etc. Mais elle est belle, c'est un enfant qui a bien travaillé, qui est resté une âme d'enfant.
Dans le cinéma, on disait tout à l'heure que vous avez un petit peu parcouru tous les métiers, vous avez du scénario, de la réalisation, vous avez même fait de la distribution, vous êtes toujours responsable d'une salle sur Paris.
Oui, je suis responsable d'une salle grâce à Delanoë. En fait, c'est Delanoë, le maire de Paris, qui a pas voulu que cette salle disparaisse, parce que c'est une salle qui a abrité... Nous, on était en culotte courte avec Truffaut, Godard, René, on était là-bas, on allait voir des vieux films fantastiques qui aujourd'hui n'existent plus, des séries Z, mais ça nous amusait aussi. On était des enfants, on aimait ça. Et alors après, on l'a racheté cette salle avec un autre cinéaste qui n'a pas voulu dire son nom parce qu'il voulait pas croire qu'il avait de l'argent. En fait, c'était pas très cher cette salle, c'était une petite salle. On l'a acheté et depuis 14 ans, on l'exploite. Avec, on en a créé une deuxième dans la même salle et maintenant, ça devient un théâtre.
Et on équilibre ça quand on fait tourner un truc comme ça?
Bah, c'est comme,
on perd du fric.
C'est comme le festival
on perd du fric,
d'ici, n'est-ce pas? C'est laborieux. Mais avec les subventions, on arrive, si vous voulez, à ne pas perdre d'argent. On n'en gagne pas, mais on n'en perd pas. Donc finalement, ça continue à exister et on travaille beaucoup avec les Indiens. Bollywood, c'est ce qui marche le mieux chez nous, c'est Bollywood.
Le quartier, de toute façon.
Ouais, mais c'est pas les Indiens qui vont voir. C'est ça, très, très curieux, parce que c'est un quartier où il y a des Pakistanais, des Indiens. Mais ils y vont pas, eux. C'est les Français, enfin, les spectateurs normaux qui vont voir du Bollywood. Parce que c'est un côté folklore, c'est un côté extraordinaire. Enfin, il y en a qui sont très beaux. Hein. Alors, on travaille avec ça, on travaille aussi avec mes copains, Tarantino, tout ça. Enfin, on passe tous les films.
Donc, dans ces cas-là, il faut compter sur les potes, quoi.
Ouais. C'est important de bosser. On passe beaucoup de films. Puis, on prend des jeunes aussi, des gens qui ne peuvent pas sortir leurs films. Par exemple, aujourd'hui, on en a un qui s'appelle No Passerelle, celui qui passe. Il passe chez moi en ce moment. C'est le seul cinéma qu'il passe. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le voir. Je devrais y être maintenant, mais je le connais puisque je le passe dans ma salle.
Ça rejoint ce qu'on disait parce que No Passerelle a une histoire assez bizarre. À l'origine, le scénario était prévu pour être de la fiction. Or, il se trouve, est-ce un hasard, qu'effectivement, un certain nombre de personnages qui se retrouvent dans ce film, entre autres, bien sûr, les élus, pour ne pas le nommer, le président du Conseil général de l'Aude ou de l'Ariège, c'est l'Aude, je crois, c'est brutalement reconnu dans ce personnage qui, évidemment, n'est pas forcément un personnage
relisant. Pas très sympathique. Oui,
et donc, ils ont commencé par sucrer les subventions, et puis après, ils font des pieds et des mains pour empêcher la diffusion.
Non, mais c'est là aussi, vous savez que De Lépine, il vient de faire un film qui s'appelle Le Mammouth. Mais avant Louise Michel, et Louise Michel, ça a été. Il y a quelqu'un dans la commission de Arte qui a refusé. Non, mais c'est sur Le Mammouth. Et il avait presque obtenu l'accord d'Arte pour faire le film, et il y a un personnage que je ne citerai pas, mais que Godin déteste, et qui est en train de l'entartrer plus exactement. Et c'est parti, paraît-il, lui qui aurait empêché la subvention d'arriver chez De Lépine. Donc, tout ça, si vous voulez, ces commissions, c'est quand même très grave, que ce soit des commissions territoriales, comme on dit, ou alors. Il y a trop d'influence là-dedans.
On a un nouveau ministre de la Culture, là, ça va changer.
Oui, alors lui, si vous voulez, j'ai une sympathie pour lui parce que c'est un artiste.
Il connaît le métier.
Mitterrand, c'est un ancien exploitant d'ailleurs. Moi, il m'a présenté un festival de mes films dans son cinéma L'Entrepôt en 1990 ou 88. Et c'est un type qui est au moins avec Malraux, qui a été le premier à m'aider, un type de droite, un autre de gauche, Jacques Lang, et ce sont des gens qui connaissaient le métier.
C'est des professionnels, quoi.
Homme de gauche, Jacques Lang.
plus maintenant, mon ami, mais à l'époque.
Parce que j'ai cru que c'était Malraux, tu voulais dire qu'il était de gauche.
Non, Malraux. Malraux est un garçon que je ne connaissais pas, sauf que c'était un grand écrivain. Je suis rentré un jour comme un voleur chez lui dans son bureau en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et je lui dis, il me manque 60 000 balles pour finir mon financement. Il a sorti son chéquier, il m'a fait un chèque de 60 000 balles. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait dans la carrière des ministres de la Culture. Et Jacques, c'était un type qui dirigeait un théâtre à Nancy. C'est quand même quelqu'un qui connaissait notre métier. Parce que le grave, quand le ministre de la Culture est nommé, et qu'il ne connaît rien du tout, c'est Madame Trottmann ou Madame Machin. C'est des braves femmes, mais elles connaissent plus la choucroute que notre. Donc, si vous voulez, nous, on se retrouve avec des gens, on ne peut pas leur parler, ils ne comprennent rien. Tandis que ceux-là, Mitterrand,
il peut faire quelque chose, lui. On peut
Il peut au moins comprendre ce qu'on veut, il sait de quoi
il parle. Il parle le même langage.
Alors, quel que soit. Moi, l'autre jour, j'étais à la fête de l'humanité et j'ai assisté, si vous voulez, au boycott de personnes qui sont passées chez Sarkozy. Mais bon. Mais c'est vrai qu'il peut peut-être faire du bien. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je vais voir dans un an où il en sera, Mitterrand.
Dans les nombreuses réalisations de Jean-Pierre Mocky, il y a eu toutes les institutions qui ont été vraiment mises en épingle et critiquées à fond, de la religion, l'armée, la police, les grandes multinationales. Il y a encore des tabous à faire tomber, la prison par exemple.
Ça, oui, ça, bah, écoutez, mon ami, comment s'appelle, mon ami Audiard, que j'estime beaucoup, prophète. Parce que d'abord j'étais très ami avec son père, et il a... Généralement, quand un père est une célébrité, le fils ne l'est généralement pas. Alors, il y a deux... C'est drôle, ça passe une génération en principe. Et là, il y a des exemples, qui est Sacha Guitry, qui était mieux que son père, en fait.
Ça peut arriver.
Parce que son père était un acteur un peu théâtreux, bon, Lucien Guitry, et c'est le fils qui était brillant. Et là, on a, chez les Audiard, quelque chose de formidable, c'est que le père était brillant et le fils est brillant. Donc ça, c'est formidable. Parce qu'il y a une génération qui se fait. Peut-être que le fils d'Audiard sera également un génie, peut-être un jour. Et ces films-là, vous parliez de prison, effectivement, c'est horrible. Mais moi, j'ai eu la chance de libérer un prisonnier qui s'appelait Knobel Peace, qui s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Et on avait fait une pétition, parce que c'est un gars qui a fait 28 ans de prison. En fait, il n'avait pas fait grand-chose. Il ressemblait un peu à Jean Valjean, un petit peu.
Un le personnage. Petit
pain qu'on a volé quand on a
un personnage de roman.
Et oui, un personnage de roman. Et moi, nous, on l'a libéré. On a dit, tiens, ben, faites-le sortir. On va lui donner une caution. Et on en a fait un acteur. Donc maintenant, il joue dans mes films. Il joue dans quelques films. Et ça lui a permis. Alors, j'ai visité des prisons. Il y avait Marie Rivière, d'ailleurs, qui l'a libéré aussi. Parce qu'il y a les visiteuses de prison. Il y a eu Béatrice Dalle, qui a même épousé un convict, comme on dit. Alors, si vous voulez, les prisons, c'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Parce que quelqu'un commette un crime, d'accord, mais qu'on le laisse quand même dans un 20 mètres carrés, quoi. Je veux dire, que pour passer sa vie, comme il va y passer 20 ans, 30 ans...
La sanction, c'est la privation de liberté, comme on disait.
On devrait leur faire des grandes cellules, au moins... Avec la télévision, qui vivent au moins dans un 20 mètres carrés, mais ils sont à je ne sais pas combien dans une cellule de 9 mètres carrés, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, alors que ça aboutisse à des suicides. Alors le plus fort, c'est qu'il y a des gardiens qui se suicident. Il n'y a pas que les prisonniers qui se suicident, il y a les gardiens aussi. Alors c'est un univers qui devrait changer. Ça devrait être un truc de science-fiction, on devrait brusquement créer des... Avec les HLM et les trucs qu'il n'y a plus pour les SDF. Parce que là, je commence un film, vous me parliez, est-ce qu'il y a encore des sujets ? Oui, ouais, les SDF.
Les SDF.
Et figurez-vous, pour faire un film sur les SDF, je suis revenu à Maxime Gorky. Alors, il faut aller loin, parce que Maxime Gorky a écrit Les Bas-fonds. Ouais. Et Les Bas-fonds, c'était les SDF de l'époque. Ouais, ouais. C'était des espèces de dortoirs qui n'étaient pas de l'État, qui n'étaient pas des dortoirs comme il y en a maintenant, mais c'était des dortoirs qui étaient gérés par un mec, un marchand de sommeil, et il y avait là une humanité souffrante, comme disait Dante. Et bien, c'est vraiment terrible. Alors moi, je suis avec eux, en ce moment je prends un billet de 50 euros, et je vais dans Paris, et j'interroge, je dis tiens, voilà toi, raconte-moi ta vie. Parce que pour faire un film sur SDF, il faut savoir qui ils sont. Ah ouais. Et là, il y a encore... on ne sait pas qui ils sont, en fait. Je crois qu'il y a très peu de gens qui les ont fréquentés.
Il n'y a qu'un type de SDF ?
Il y a qu'un... Non, il y a beaucoup de types. Il y a même des SDF qui ont un appartement. Alors ça, c'est... Parce que c'est des cases de SDF. Bon, enfin, on en parlera un jour si on a l'occasion de se revoir, parce que c'est un sujet majeur. Il y a ça qui est un sujet majeur, et il y a les cités, bien entendu, parce que dans les cités, on a fait la haine, il y a Kassovitz a fait la haine. Mais ça a changé. Ça a changé. Et moi, l'autre fois, j'ai l'amitié de ces gens-là. Et ça, c'est ce qui me plaît, justement, c'est avoir l'amitié des jeunes noirs, des jeunes arabes, des jeunes beurs. Parce que je ne sais pas pourquoi, ils me considèrent comme leur frère, ou comme, disons, pas leur frère, parce que je suis trop vieux, mais disons, il y a une espèce de... Alors, l'autre fois, j'étais en train de faire un repérage avec une caméra, et brusquement, je suis agressé par un d'entre eux. Ils voulaient m'enlever la caméra. Et tout de suite, il y en a le chef, et ça a ressorti, il dit, ah, c'est Moki. Alors, écoutez, rendez-lui la caméra, c'est un type à nous. C'est un type à nous, voilà ce qu'ils ont mis. Alors, ce qui fait qu'ils m'ont rendu ma caméra, ils m'ont pas cassé la gueule.
Ça tient à quoi, ça ?
Et je sais pas, c'est physiologiquement, ils se sentent, quand je gueule à la télé, tout ça, ils se sentent proches de moi. Et les prisonniers aussi, parce que Solo, qui va passer ici demain, c'est un film qui a été présenté dans la prison, et comme moi, là-dedans, je joue un type qui est complètement asocial, etc., il s'identifie à moi, il s'identifie au personnage. Et ça m'a fait plaisir, parce que cette communauté noire, cette communauté pakistanaise, cette communauté arabe, il faut quand même, il faut avoir leur sympathie, je sais pas, il faut pas provoquer démagogiquement leur sympathie, mais on est heureux de l'avoir, c'est-à-dire on se sent heureux, surtout que j'ai rien fait pour, quoi, en fait, je suis pas allé faire des meetings chez eux en disant, vous savez, et non, il y a une sympathie et ça me fait chaud au cœur d'avoir tous ces gens-là derrière moi et ils achètent mes cassettes. Ils achètent, parce que je me dis, mais comment qu'ils me connaissent? Ils ne vont pas au ciné, ils ont moi, mes premiers films, c'est il y a 40 ans. Alors comment ces gens qui ont 20 ans peuvent me connaître? Eh bien, ils vont acheter des trucs en solde aux puces, ou alors ils les chouravent carrément. Et puis, ils vont se les voir dans leurs trucs, vous voyez. Et ça, c'est vraiment formidable, et je crois que c'est quelque chose, j'en parlais à Tarantino, lui, il a un autre public. Il a tout le public des gens qui aimaient les films noirs de l'époque. Alors, il fait des pastiches. Il le dit, d'ailleurs. Pastiches, les vieux films noirs de Bogart, de machin, de trucs. Mais il redonne une vie au cinéma parce que ce genre de trucs disparaissait. Il n'y avait plus ces films-là.
Ce que vous nous racontez, là, ça nous permet de rester un peu optimiste, quand même.
Ah ben oui, il faut rester optimiste. Ouais. Il faut donner la parole à des gens comme nous pour que le public vaille. Et ce qui est agréable ici, c'est qu'on a l'impression... Là, j'ai rencontré du public hier soir et on a l'impression que c'est des gens qui viennent là comme des pèlerins un peu. Ils viennent pas comme ça pour voir Brigitte Bardot, enfin qui n'est plus là malheureusement,
ils viennent comme ça.
Voilà. Alors voilà le président qui arrive.
On a du bol, là, voilà.
Et qui a d'ailleurs une tête pour moi. Il va probablement tourner chez moi.
Alors c'est... j'ai pas que la tête, hein, mais bon.
Alors là, mais il a une bonne. Non, mais il a. Il aurait pu jouer le général de Gaulle, il y a plus mal.
J'aurais bien pu dire Casse-Pauvre-Front, parce que c'est la tradition avec le président de Groland. Hein, il vaut mieux reprendre. Mais ça a déjà été dit, alors on va mieux dire autre chose. Jean-Pierre Mocky, merci. Peut-être encore trois mots sur des projets concrets. On a parlé de colère.
Ah oui, alors là, je fais donc ce film sur les SDF et je fais aussi une comédie sur le crédit et l'endettement, parce que c'est aussi un grand problème.
Eh oui, donc voilà, les sujets problème. De société.
Qui d'ailleurs en Belgique a été partiellement résolu parce qu'une loi est passée en disant mais si vous avez plus de 3 crédits, on vous signale. C'est cette fameuse loi qui n'existe pas en France, hélas. Et les gens s'endettent de plus en plus jusqu'à se foutre par la fenêtre.
Donc à votre âge, on peut encore être rebelle.
Voilà.
Merci beaucoup Jean-Pierre Mocky. Et puis bon courage dans le boulot de président de jury de Groland, le 5e festival. Et puis là c'est un honneur sans nom que nous avons. Groland, dont nous émettons en direct là, à la fois sur la ville de Caen. Et à la fois donc sur le 106.6 de Radio Campus Lille en FM et à la fois sur la planète entière grâce au site internet de Campus www.campuslille.com. Ah ben nous accueillons maintenant, j'allais dire, les responsables de tout ce qui se passe depuis quelques années dans cette présipauté de Groland. C'est une vieille histoire, alors je ne sais pas comment il faut vous appeler, mon cher confrère.
Monsieur le Président, tout court, hein, c'est bien. Ah, tout court, non, justement.
Tout court, 1m95, voilà, ouais.
Bon. Je vois qu'il y a beaucoup d'animation sur le plateau. Il y a Rémi qui a fait un film d'animation, justement, et puis il y a les responsables de Panique au Village, c'est parfait.
Ah super, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des gens qui sont venus parler du film et qui nous ont vraiment donné envie d'aller le voir, c'était génial. Eric, aide-moi. Panique au Village, qui c'est qui nous a conseillé là? C'est Roland. Voilà.
Ah. Sacré Roland.
Noël Godin.
C'est Noël Godin en fait qui a fait.
Ça déboule.
Promotion de votre film, mais vous avez encensé.
Alors le président de Groland, là, c'est maintenant devenu, j'allais dire, une tradition, mais c'est un gros mot aussi dans le langage grolandais de parler de tradition.
Oui, ça fait 5 ans, hein, le quinquennat s'achève donc, au moins j'en aurais fait un, moi. Et puis sinon, ça fait 17 ans que ça dure, donc tout le monde ne peut pas en dire autant, en tout cas pour un président.
Ça a démarré comment, Groland? C'est une idée de fou, j'imagine.
On s'est retrouvés à Benoît Delépine, donc alias Michael Cull et Moustique, et un réalisateur, Sylvain Fuset, qui est aussi là. On s'est dit, tiens, plutôt que de boire des coups seulement, on s'est dit, on va boire des coups et faire des conneries ensemble. Donc, depuis 17 ans, on fait des conneries ensemble.
C'est un moteur important, ça, de la fête et la beuverie, pour faire des choses intéressantes qui peuvent aboutir à
pas
des choses sérieuses.
Pas seulement la beuverie. Non, ce qu'on aime bien aussi, c'est plutôt que ce soit qu'une émission de fiction à la télévision, en l'occurrence Canal Plus. On aime aussi exister, c'est pour ça qu'on compte beaucoup de Grolandais qui sont rassemblés ici à Caen pour avoir un événement réel en fait.
Mais Groland est de plus en plus maintenant cerné par une république bananière. Là, on voit ici aujourd'hui que c'est difficile de circuler sans se faire... Il y a des relations diplomatiques sympas entre la république bananière qui s'appelle la France et puis Groland.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chemises bleues en tout cas pour cette édition du Festival de Caen. Et, on sait même leur remettre un prix de la communauté la plus importante, en tout cas la plus présente à Quin.
C'est pas des figurants, c'est bien, c'est pas des Groenlandais, c'est bien.
Je sais
des...
pas, c'est marqué gendarme, je sais pas ce que ça veut dire.
C'est pas, on risque pas de la principauté, va pas déclarer la guerre.
Non, je pense pas. À la limite, on changera de crèmerie.
C'est quoi la devise de Groenland? À la fois pognon et à la fois.
Je mourrai pour toi, mais. C'est les autres qui disent ça pour moi en général.
Travailler plus pour gagner plus, non c'est...
Non, je crois que ça n'a échappé à personne, ça ne marche pas en tout cas.
Alors Groenland, ce festival, bon, c'est, on plaisante, là, on raconte beaucoup de conneries, mais en fait c'est un festival très très sérieux. Là. C'est...
Oui, mais cette année il y a une très très bonne programmation.
Avec, là, des productions
avec un fabuleux film donc, qui s'appelle Panique au village. Et un superbe court-métrage qui s'appelle The End de Rémi ici présent. Donc, voilà.
Tout ça, on peut le voir là, sur ce site de Groenland. Quin Plage, il y a une histoire aussi à Quin Plage. On n'aboutit pas ici dans cette superbe ville, disons, à la limite du Pas-de-Calais et de la Somme, quand on vient des milieux parisiens, Canal+, c'est bizarre, ça ressemble un peu antinomique.
Non mais moi je suis né dans le Pas-de-Calais, donc à Lens. Et
la raison.
Et j'ai passé toute mon enfance à Berck, qui n'est pas loin d'ici.
62 mai fiteux.
Michael Cull, lui, venait passer des vacances à Quin Plage, justement.
Et
à Merlimont, après, par la suite. Donc, on est un peu du coin. Et puis, voilà, on aime bien. On aime bien se retrouver là. Il y a nos amis belges qui sont pas loin non plus. Et puis, voilà. Après, Quin, ça ressemble un peu à Cannes. Donc, on fait comme la bande-annonce de cette année.
Ah, c'est ça.
On peut faire Quin que Cannes. Hein,
Quinquin.
Et c'est lustre, voilà.
Quinquin,
ouais. Ouais.
Charles Quinquin.
Et puis, ça requinque. Hein. Voilà.
Le président de Groenland, il y a un prénom.
Il a un nom, ouais, c'est Salangros, et un prénom, Christophe.
Ah ça, c'est nommé là, c'est pas un pseudo, là, c'est...
Non, au départ, c'était Salangroland, mais c'était un peu compliqué et long. Donc,
voilà aussi pourquoi le Groenland.
Ah, voilà, vous avez trouvé, cher ami.
Oh là là, mais
après
on sait 5 tout.
Ans, bah oui.
On est tombé sur la bonne personne, là, pour tout savoir sur l'histoire de Groenland.
Ah, vous avez eu le bonheur de l'apprendre le matin, c'est bien.
Ça a quel moyen, la principauté de Groenland, pour vivre, parce que vous vivez sur un pied de...
Sur deux pieds, même, carrément. Ouais. Non, mais on vivote avec quelques oboles. On est un peu comme les moines bouddhistes. On nous offre des bières dans la rue, comme ça. On survit largement, d'ailleurs.
Et tous les samedis, on va encore vous voir longtemps, là, le samedi
pour,
soir.
Pour que ça dure, ouais, que je vous dis, ça fait 17 ans qu'on est là. C'est pire que Omar Bongo ou d'autres gens comme ça.
Il faudra attendre.
Pourvu que ça dure. Hein.
Pourvu que ça dure. Non, mais là aussi, là, on plaisante plus. Là, parce que, effectivement, dans la tradition.
Est-ce que j'ai une tête à plaisanter
de la République bananière que nous évoquions au début, il y a de plus en plus de signes comme quoi on en prend plein la gueule quand on est un peu hors norme.
Oui, mais j'en ai pris plein la gueule, c'est vrai. Donc maintenant, je me venge. Ouais. Voilà. Non, mais tout se passe bien. Et les Groenlandais sont de plus en plus nombreux. J'espère que l'année prochaine, ils pourront venir encore plus nombreux que les autres années.
Et on peut dire que Groenland fait les choses bien parce que l'organisation, c'est super, l'accueil est super pour tout le monde, c'est convivial, il y a un temps magnifique. Comment vous faites pour avoir la météo avec vous? Ça, c'est les mystères des relations que vous avez, des relations privilégiées que vous avez avec qui, au fait?
Avec Dieu, je pense. Je ne sais pas.
Alors, il est accompagné, le président est accompagné de sa Carlita.
Ah.
Et donc, est-ce qu'elle chante? Carlita chante.
Elle chante susurre à l'oreille. Vous savez, elle n'a pas beaucoup de voix. Donc,
elle n'a pas beaucoup de voix. Donc, elle pourrait nous susurrer quelque chose à l'oreille. À l'oreille de Radio Campus.
Carlita, je l'appelle.
Ah, voilà, la Carlita. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.
À tout à l'heure.
Monsieur le Président. À tout de suite. On peut vous retrouver donc tout au long de ces deux journées. Ça dure jusque demain, le festival du film groenlandais, jusqu'à demain à Quin. Et voilà, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Carlita.
Carlita.
Bonjour. Alors.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous chantez?
Oui.
Oui.
Vous voulez que je vous chante une chanson, donc?
Oui, tout à fait. Oui.
Je voudrais dissiper un certain malentendu. Son casse-toi, pauvre con, a été mal perçu. Car il s'est emporté dans l'une des allées. C'était juste pour gronder un énorme faisan qui avait hélas chié sur ses belles pompes à gland. Voilà.
Merci.
Alors, Carlita, vous avez un album en préparation, j'imagine.
Oui.
Merci.
Et un concert en prévision, peut-être un concert ici ce soir à Caen.
En privé pour mon mari. Amour.
Le métier de présidente, on s'y fait vite.
Très vite, oui. Surtout avec un mari comme le mien.
Ah, il faut dire que c'est
si attachant, si plein de fantaisie et tellement libre.
Longue vie au couple présidentiel de Groland.
Merci.
Et rendez-vous avant l'année prochaine sur un album et puis sur des concerts. Alors, des concerts privés, donc on n'a pas de chance là.
On ne sait jamais. Il y a des micros partout.
Merci beaucoup, c'est
merci
très gentil.
Merci à vous.
En direct de Groland, donc de ce cinquième festival du film Grolandais, ça se passe à 15 et ça dure 3 jours, ça dure jusque demain. Un grand merci à tous nos invités, évidemment les obligations présidentielles les retiennent, mais ça continue en direct avec, on en parlait il y a 3 secondes, alors deux invités qui sont sur, trois invités qui vont intervenir là dans les secondes qui suivent, Rémi, dessinateur, qui va nous parler
grand
de son
dessinateur.
Grand dessinateur, qui va nous parler de son exposition et puis de son... de son art, de ses dessins, et donc, si j'ai bien compris, de réalisateur ou participant du film Panic au village, c'est bien
de
ça.
De réalisateur. Oui.
Alors, je ne sais, de réalisateur, voilà. Alain, vas-y, on commence par
oui,
Panic
par
au village ou
par Rémi. Rémi.
Mais tous les micros sont ouverts, tout le monde intervient quand il en a envie.
Bon, Rémi,
salut Rémi.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, moi je sais pas comment parler des choses parce que Rémi, ça fait très longtemps que je te suis dans les journaux et tout ça. Et,
Faillot.
Oui, non, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois que tu ouvres une page où il y a un dessin de Rémi, genre déjà c'est pas un dessin, c'est. Il y a toute une œuvre déjà dedans par rapport à d'autres dessins de presse où c'est des trucs qui se font très rapidement, à l'arrache, hop. On balance l'effet rapidité. Toi, il y a tout un travail de fond qui est mis. Et c'est vrai que on peut passer, je veux dire, des minutes et des minutes à regarder le dessin parce que.
Pourtant, je dessine aussi vite que les autres.
C'est vrai, ouais. Parce que le travail est carrément différent.
J'ai appris avec le dessin de presse. C'était toujours à une heure, il fallait rendre le dessin très rapidement. Et ouais. Je sais faire vite et bien.
Oui, ça. Alors moi, pour te définir, si les gens ne connaissent pas encore Rémi, moi, je sais pas. Moi, j'ai vu tout à l'heure dans. Dans le livre, le dernier livre que tu as fait illustrer un texte du Marquis de Sade, il y a Nouvelle Justine qui dit une chose, elle dit « Le bonheur n'est que ce qui agite et il n'y a que le crime qui agite ». Je trouve que ton dessin, c'est un peu ça. Est-ce que c'était voulu, ton dit ?
Je n'ai même pas retenu la phrase que tu viens de dire.
Tu veux que je la répète ?
Je n'arriverai pas à l'analyser. Mais sur ce livre, j'ai lu le texte, on me l'a... C'était un texte qui est libre de droit. Et le Chien Rouge de CQFD, ils voulaient éditer un livre comme ça. Donc ils ont pris celui-là. Et ils voulaient laisser tomber le projet. Puis en fait, je me suis dit, ouais, non, c'est bien, je l'ai lu et tout ça, on va faire quelque chose. Et en fait, j'ai fait une histoire en parallèle. J'ai pas du tout illustré le texte du prêtre et du moribond. C'est vraiment parallèle et c'est un autre point de vue. Donc ça fait deux histoires différentes. C'est ça qui m'a amusé.
L'univers de Rémi, c'est quand même un univers, est-ce qu'on pourrait te, j'aime pas le terme, mais torturé, est-ce que c'est la société qui fait que, ça fait que ton dessin, tu reproduis ce que, tout simplement, ce qu'est la société.
On va dire les trucs, quoi, comme genre, c'est le miroir,
C'est la merde, en fin de compte.
Ouais, c'est la merde, mais... Ah,
mais là, au moins, c'est clair avec tes dessins.
Bah, moi, je sens quand le dessin est bien, ça se sent ici, ça monte là, ouais. Dans du ventre... comme une montée de... pas d'adrénaline, mais que tu sens une énergie qui monte, et puis là, je sais qu'il est bon.
Aujourd'hui, tu fais...
C'est comme ça.
Aujourd'hui, tu fais une expo, donc c'est pour toi l'occasion de voir un peu, éventuellement, le contact avec le public. Tu as des réactions
Moi, je vis que en expo, alors j'ai l'habitude, les contacts...
Et alors
Très bien, là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les touristes de Caen, les petits pépères MMR qui sont là, qui rentrent, voir l'expo de Caen Plage. Et ils n'ont vraiment pas l'habitude de ça.
On peut le dire.
Et puis ils s'accrochent vachement en fait, ils regardent tout et ils sont bien tranquilles, ils regardent ça, ils sont vachement choqués, mais ils y vont, ils regardent tout jusqu'au bout.
Il n'y a pas que des expos, il n'y a pas que des dessins dans ton expo, il y a aussi des objets animés, on va dire.
Ouais, c'est ce qui fait un peu que les dessins passent bien parce qu'à côté il y a les machines à cinéma.
Ah voilà, les machines à cinéma
en parallèle
des lanternes magiques,
et qui font que j'ai pas l'air d'un monstre.
Oui, à la rigueur, les machines, c'est la fête foraine.
J'ai remarqué ça. Ouais. Quand les dessins sont tout seuls, là, c'est plus difficile.
Ouais. Ouais. Parce qu'en même temps, la reproduction, moi, pour moi, ça fait penser aussi à la fête foraine, avec les monstres. On va montrer les monstres, on va montrer tout ça, où tout le public venait pour ça, et après, venait s'amuser. Mais c'était surtout voir la femme à barbe, enfin, les choses comme ça. Ouais. Et toi, tu as remis à l'ordre du jour, en fin de compte, d'une certaine façon, et c'est...
Ouais, j'ai rien inventé, hein. J'ai tout repiqué dans les vieux systèmes, qui ont été vite abandonnés, mais ils sont toujours nickel, quoi. C'est vraiment... ce qui est étrange, c'est que c'est des choses qu'on peut toucher, c'est du bois, et quand on les met en mouvement, soudain, pouf, ça devient vaporeux, c'est... Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui existe encore. Pour moi, le cinéma, c'était ça, c'est ça, quoi. C'est ce petit truc magique, quoi, de... Dès que ça se met à bouger, pouf, ça devient un palpable, je sais pas, un petit truc très, très étrange.
Mais c'est très punk, moi, je trouve.
Déjà, il y a... Ouais, ouais.
D'ailleurs, cette exposition, tu l'as mise un peu en mouvement dans un film qu'on a eu l'occasion de voir hier.
Ouais, bah, tout ça, c'est une continuité, hein. Je dessine, et puis j'ai fait beaucoup de spectacles de rue avec des troupes, donc j'ai appris la bricole, et c'est comme ça que... Après, j'ai eu du mal à travailler en collectif, donc j'ai fait cette petite expo de machines à cinéma, que je tourne depuis 10 ans, que je renouvelle, tout ça. Et à force de faire ces petites machines, en fait, c'est toujours des petites histoires en boucle. C'est toujours 4 images, 6 images. Bon, il y en a une avec 300, mais c'est toujours en boucle. Il faut toujours que le début rattrape la fin. Et je voulais un peu sortir de ça. J'ai envie de faire une histoire, quoi.
Alors, tout à l'heure, justement, on évoquait aussi la notion du message. Je pense que dans l'exposition, effectivement, d'un point de vue statique, il y avait quand même énormément de messages. Et dans le film d'hier, je reviens un peu là-dessus, parce qu'on a eu une longue discussion, nous, hier, après la projection,
ben,
entre
ouais.
nous, là, les fidèles animateurs Radio Campus. Alors, est-ce que j'ai rien compris, ou est-ce que ma femme a compris que la femme est vraiment l'avenir de l'homme, et que...
Ben, moi, j'ai rien compris non plus. Moi,
Ah, tu cherches pas à comprendre.
J'ai pas écrit l'histoire. J'ai rien écrit. C'est une improvisation, en fait.
C'est ça, c'est ouais. une suite d'idées ouais. qui déferlent.
J'étais obligé parce que j'avais fabriqué le personnage déjà 2 ans auparavant, qui est en latex et qui pourrissait. Et donc il fallait que je me dépêche. Donc j'ai fabriqué vite le lieu pour tourner. Et puis après, j'avais des idées latentes hein, dans la tête qui m'ont fait que j'ai pu commencer. Je me suis décidé et j'ai tourné. Et puis de scène après scène, l'histoire s'est montée. Mm-hmm. Et ce qui avait été rigolo, c'est que je ne pouvais pas revenir en arrière, parce que c'était vraiment un truc que je m'étais dit. Mais je ne savais pas du tout l'histoire que je faisais.
Si je reviens sur la notion
de boucle... Ni le contenu et tout ça.
La notion de boucle que tu évoquais, dans une partie de l'exposition, on voit souvent le singe. Alors je sais que le singe descend de l'arbre, donc l'homme va descendre quelque part de l'arbre aussi. Alors, il y a cette boucle, je dirais, rétroactive. Et puis après, dans le film, encore hier... on n'était pas loin de la disparition de l'espèce humaine, ou tout au moins de l'homme.
Ouais, là c'est plutôt ouais, sur l'espèce sexuelle, homme-femme. Hein. Là, je remarque le thème. Bah, quand je sors, les filles sont super contentes, et les mecs, c'est super plus étrange ce qui se passe. Ouais.
Ah bon ?
C'est la merde, moi j'ai bien aimé.
Le plus simple, c'est d'aller voir ton expo. Là. Ouais. Sinon, pour te retrouver dans d'autres organes de presse, tu as collaboré un moment à Ciné Hebdo. Actuellement, tu as l'équivalent ou
J'ai laissé tomber Ciné Hebdo. Là, je fais CQFD depuis 5 ans.
CQFD.
Ouais. Et sinon, je ne fais plus rien.
Comme tu
j'arrête
disais,
les journaux. Ouais.
Tu arrêtes le collectif, ouais. Tu bosses seul.
Non, c'est pas ça. Mais les journaux, je ne veux pas m'emmerder à dessiner pour un journal, même s'ils me payent. Ils m'aiment bien, mais dès que je suis dans leur support, il y a toujours plein de problèmes.
Ah ouais, ça...
Soudain, ça marche ça plus, ça, il y en a toujours qui vont pas.
C'est lié à
et
eux
puis,
ou à toi
c'est lié à eux. Moi je suis prêt
à toutes les concessions.
Non, aucune concession.
Tu me rassures.
Et même à Ciné Hebdo, j'arrivais même pas, je m'ennuyais. J'ai fait 4 mois, je m'ennuie.
C'est vrai.
Ça va continuer. Ils font le même numéro toutes les semaines. Et moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on fasse un nouveau numéro chaque semaine, quoi, qu'on s'amuse.
Donc, qu'est-ce que tu lis alors si tu lis publié des signes Hebdo
Ma copine est abonnée à l'Humanité.
C'est QFD, tu
C'est fini l'abonnement, puis c'est QFD. Ouais, je fais que c'est QFD.
Et le plan B, non Le plan B
Le plan B, ils n'ont pas besoin de dessin.
Ouais, non.
C'est un peu la même bande, mais ils n'ont pas besoin de dessin. Vaut mieux pas.
Voilà, donc on peut retrouver Rémi dans le cadre de ce 5e festival du film Groslandais. Ton expo, elle est là jusque demain dimanche, j'imagine.
Ouais, je vais ouvrir quand même dimanche pour les retardataires.
Et sinon, tu as d'autres rendez-vous à nous donner
Bah après, bah, mes machines, elles vont aller à Rixheim, près de Mulhouse.
Ouais.
Et puis, je vais essayer de tourner mon film.
Ah, t'as aussi
dans une petite salle, ouais, au printemps.
Un projet du film, c'est ce qu'on avait vu ou bien c'est tout à fait
parce que, en fait, le film est vachement plus beau que ça, parce que là, ils se sont trompés de format dans la présentation. Ils l'ont mis en grand alors que c'était en petit. Et il y avait la lumière trop forte et les couleurs toutes jaunes. Et on ne voyait rien, aucun détail. Alors qu'en fait, il y a des couleurs. C'est assez joli, en fait.
Et à Rixheim, c'est dans quel cadre?
Ça, c'est les machines à cinéma que j'expose, ouais. À Rixheim, dans un cinéma.
Et c'est la même ambiance que Groland ou bien
non, rien du tout, rien du tout. C'est vraiment une ambiance dans un petit cinéma, sérieux, avec des enfants tout ça, et tout ça. Et alors, sinon, voilà quoi.
Il faut dire quand même que Rémi s'est déplacé dans l'Hexagone, c'est sûr. Il a même été au-delà, il a été...
Avec les machines, ouais. Avec les instituts français, culturels, à l'époque, on pouvait encore se balader.
Tu as été au Maroc?
Ouais, à Meknes, et à Ljubljana, en Slovénie, en Corse.
Même en Suisse.
Et même en Corse. Mais alors, je vais te poser une seule question, Pierrot. Sais-tu où il est né, Rémi?
Ben, j'en sais rien, mais tu vas me le dire.
Où t'es né, toi?
Mais je suis né à Roubaix.
Ah ben, moi aussi.
Ah ben, des Roubaignons, comme quoi le monde est petit.
Et moi, j'y vis encore.
Merci, Rémi. Bon. Tu peux rester avec nous, là, maintenant. On va parler d'un film qui s'appelle Panique au village, avec les deux réalisateurs. Panique au village, alors, disons tout de suite, pour ceux qui nous écoutent dans les rues de Quimplage, que c'est projeté tout à l'heure au PAX à 14h15. C'est également reprojeté demain à 10h15 au PAX également. Et dimanche après-midi à 14h à Berck au cinéma Le Familia. C'est l'occasion de dire que Groland, le festival de cinéma, c'est décentralisé. Là. Berck, c'est juste à côté, mais enfin, c'est à côté de Quimplage. Panique au village, le film belgo-franco-luxembourgeois. Nous avons avec nous Patard Aubier. Il en manque un troisième, là. Alors, bonjour.
Bonjour.
Mais...
Bah oui, il y a Guillaume qui est un peu timide, je crois qu'il s'est sauvé. Ouais. Guillaume qui a coécrit le scénario.
Alors, j'ai dit franco-belgo-luxembourgeois, c'est vrai? Ça veut dire que c'est de la production ou bien c'est de la réalisation qui est partagée?
Coproduction. Et donc, il y a une partie du tournage qui s'est faite à Luxembourg. En fait.
D'accord. Et il y a un résumé qui semble pour moi un peu schématique et caricatural. Il marque dans la programmation Western Spaghetti. Vous revendiquez ça?
Mais en fait, Western Spaghetti, c'est un avant-programme, c'est un court-métrage de Pez. C'est un New-Yorkais qui fait des films d'animation. Mais Jeanne Balibar l'a qualifié de Western Punk.
Western. Ça commence déjà à... Tu l'as vu toi, Olivier? Olivier qui vient.
Alors moi,
je ne
l'ai pas encore vu, mais je connaissais ce que vous faisiez précédemment, puisqu'au fond, là, vous avez fait de dessins animés, un court-métrage. Un long-métrage.
Mais oui, en fait,
vous avez raconté une longue histoire sur un temps long, alors que vous racontiez plutôt des histoires plus courtes sur un temps très court, surtout.
Bah oui, en fait, on s'est posé la question dans un premier temps si on allait refaire une deuxième série, et puis on sortait de 20 épisodes, on avait un peu envie de changer un peu les choses et de raconter une histoire un petit peu plus longue. Donc voilà, on l'a mis en chantier.
Oui.
Avec Vincent Tavier et Guillaume, on a écrit un scénario qui nous a pris 3 ans, en fait.
Qui vous a pris 3 ans?
Oui.
Donc l'écriture de ce film qui est présenté ici...
Il est dans la compète, Panique au village?
Oui.
Il fait partie des sélectionnés?
Oui. Oui,
oui, et puis...
Quand on se présente à une sélection comme ça dans un festival, c'est dans quel objectif? D'abord, c'est vous qui faites la démarche ou bien on vous sélectionne, on vous sollicite en disant tiens, on vous a repéré, on vous prend dans la sélection?
Ben, je pense que Benoît, il connaît déjà notre travail depuis pas mal de temps, donc je pense qu'il a, dès qu'il a su que le film allait sortir, il a tout de suite demandé, quoi. C'est lui qui l'a appelé.
La démarche de venir dans un festival, j'imagine que vous n'êtes pas allé à Cannes, parce que effectivement, quand on parle de Cinoche, et puis Cannes a la volonté d'être l'anti-Cannes, la démarche d'aller dans un festival, c'est pour obtenir une reconnaissance, c'est pour obtenir une diffusion, c'est pour obtenir une récompense?
Bah, en général, c'est des tremplins pour avant la sortie du film, essayer de trouver des gens qui... qui serait susceptible de distribuer.
Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a vraiment aussi là une démarche professionnelle, parce qu'effectivement, dans la jungle de la distribution, on en parlait avec Mouki là tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la distribution et la diffusion pour le cinéma, comme beaucoup d'autres formes artistiques, comme la chanson, la musique.
Mais on a quand même eu droit au tremplin de Cannes, parce qu'on était dans sélection officielle, mais hors compétition, en fait.
Ah, bah c'est bien ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, la reconnaissance, quoi.
Pour le vendeur international, c'était évidemment une aubaine pour être sur le marché et trouver un peu.
Parce que le film est déjà sorti en salle.
Il est sorti en Belgique.
Il est sorti en Belgique.
Tu l'as vu, toi, Rémi ?
Non. Moi, je ne l'ai pas encore vu non plus, malgré qu'on soit frontalier.
Bah, il faut aller voir, là, c'est tout à l'heure. 15, voilà. C'est tout à l'heure, 14h15. Là.
Bon, et alors, est-ce que vous revendiquez un peu une belgitude dans le travail que vous avez fait ? Parce que pour nous, francophones, on a l'impression de ressentir ça fortement, en fait, cette vitalité, alors pas seulement dans le dessin, dans l'approche que vous avez, vous, personnellement, mais aussi globalement, de ce qui se passe en Belgique en termes de cinéma, que ce soit sur Liège, ou peut-être là, plutôt, sur Bruxelles, mais au fond, on a le sentiment de reconnaître une patte, enfin, une tonalité dans l'écriture du scénario, qui vous est beaucoup plus personnel, hein, dans la vitalité de l'écriture, hein, parce que ça va très vite, en fait, hein, cette histoire-là, tout passe très vite.
Il est belge parce qu'on vit en Belgique et qu'on observe un petit peu ce qui se passe autour de nous, et dans ce sens-là, mais sinon, on n'a pas vraiment... on utilise beaucoup, par exemple, les accents belges, parce qu'on les trouve... Je sais pas, comme les Monty Python, quand ils font parler le personnage, ils aiment bien, ça leur donne de l'énergie, donc c'est juste dans ce sens-là.
C'est excessivement énervant.
Oui, pour les Monty Python, mais pas pour Panique au village.
Mais on essaye aussi de pas tomber dans la caricature, on pense être plus proche d'un certain réalisme que dans la caricature, même si c'est un petit peu tiré, mais... Parce que bon, c'est vrai que le petit fermier est hystérique, je sais que ça peut en énerver certains. Mais nous, on a connu des gars comme ça, on vient de la campagne, et des petits fermiers qui gueulent sur leur tracteur, c'est dans les courants, dans les villages.
Oui, justement, est-ce que vous pourriez nous relater un petit peu l'histoire, enfin, de cette...
Sans déflorer l'ensemble.
Oui, pas l'histoire de Panique au village, pas le synopsis de Panique au village, mais au fond, comment est-ce que vous en êtes venu à faire, je sais bien que c'est une question qu'on vous a posée souvent, mais en arriver à rejouer, en quelque sorte, avec vos petits personnages avec lesquels tout le monde a joué quand on était petit.
Mais en fait, le concept de base, ça vient d'un film que Stéphane a fait à la Cambre, un film de fin d'études, où il avait envie de tester autre chose que le dessin animé traditionnel. Et donc voilà, il a ressorti ses petits jouets. Et en fait, très vite, Stéphane, tu peux peut-être...
Panique, on avait fait des dessins animés quand on est sorti de l'école. On faisait juste des trucs comme ça pour nous, mais pour bouffer, on faisait des publicités, des choses comme ça, des travaux alimentaires. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était raconter nos propres histoires. Et si on devait faire des dessins animés, il aurait fallu qu'on lance une vraie grosse production, peut-être aller faire animer ailleurs nos personnages. Mais ça, on avait envie de garder tout, de tout faire nous-mêmes. Donc c'est comme ça que Vincent Tavier, qui est notre producteur, il a repensé au film que j'avais fait à l'école. Il s'est dit, ce serait bien si on reprenait ce concept-là et qu'on prenait des personnages de ferme, des cow-boys, des indiens, des chevaux, tout ça, puis essayons de raconter des histoires avec ça. C'est une raison économique, en fait, au départ. Et puis finalement, on s'est vraiment pris au jeu et on a développé tout un univers autour de ça, dans les décors, dans le design des objets qu'ils ont, et puis les histoires aussi, bien sûr.
Et si vous gagnez ici à Groland l'Amphore d'or, ça veut dire quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça signifie d'abord gagner l'Amphore d'or à Groland ?
Ah bon, on la mettra sur la cheminée, ça va être bien.
Et puis du pinard dedans, non ? Ou de la bibine, je sais pas, parce qu'en Belgique,
j'aimerais bien,
c'est plutôt la bière.
C'est pas mal.
C'est tout. Non, ça vous donne quoi ? Ça vous ouvre des
portes ? Ah ben, c'est toujours un petit cachet ajouté sur l'affiche, et c'est quand même pas mal.
Petite ligne en plus sur le CV.
Voilà.
Et aussi plus d'interdictions.
Ça joue dans les deux sens, le label Groland.
Plus de portes qui se ferment.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Les Panikov Village, et ben alors surtout ne ratez pas, là, je vous disais tout à l'heure, il y a vos compatriotes, là, Noël Godin, qui est passé, ouais. qui a fait une pub encore plus.
Oui, il nous a coûté cher.
Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ah, bah, lui, il coûte cher, lui. Il faut lui payer sa pâtisserie. Alors.
Bon, mais c'était pas le seul, hein, depuis ce matin. Il y a fait des... Et vous, est-ce que vous avez vu d'autres productions qui sont présentées ici, dans le cadre du festival qui vous ont interpellé, enfin, ne serait-ce qu'en court-métrage, ou peut-être dans le off.
On n'a pas eu l'occasion de voir grand-chose.
Désolé. On l'a vu. On est venu au premier festival. Et moi, je me souviens de Yes Man qui était passé.
Ouais.
C'était il y a 5 ans, je crois. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le grand prix à l'époque. Mmh. Ouais, c'est chouette.
Panikov Village, c'est tout à l'heure à 14h15 au cinéma Le Pax. C'est ensuite demain à 10h15 au même endroit, cinéma Le Pax. C'est à Quimplage. Donc demain dimanche à 10h15 et demain dimanche après-midi à 14h à Berck au cinéma Le Familia. Merci Rémi, merci les copains,
merci.
Panikov Village.
Merci.
Vous êtes à l'écoute de Campus qui émet en direct donc de Quimplage pour ce 5e festival du film Groslandais. Beaucoup d'invités tout au long de la journée. Restez fidèles au 106,6. Vous pouvez également nous écouter, si vous n'êtes pas sur la métropole lilloise, donc en FM, vous pouvez nous écouter sur le net www.campuslille.com.
Pour nos amis
belges, c'est sur la planète entière, une fois. Et donc, Campus, les émissions, vous les écoutez en direct. Vous pouvez également les retrouver pendant 2 mois si vous avez raté le début ou si vous voulez reprendre, écouter un petit peu d'autres échantillons de notre grille de programme. On est aussi...
Nous avons aussi des t-shirts à vendre.
Voilà, on est physiquement présent ici sur le site de Groland. Il fait un temps super, l'ambiance est sympa, le public est sympa, tout le monde est sympathique. Il n'y a que des Grolandais, donc c'est tout dire. Ouais. Voilà. Et bonjour à tous les Grolandaises, à toutes les Grolandaises et les Grolandais qui sont dans les rues, parce que nous sommes diffusés donc aussi en direct dans les rues de Quimplage. Pour l'instant, peut-être un peu de musique. L'ami Marcel qui était à la technique.
Et allez voir Panikov Village, ça dépote.
Panikov Village, on parlera de la suite de cette actualité de Groland dans quelques instants. Musique.
655.8.
J'ai vu des coyotes là sur la 22, là. Faites attention, les mecs.
Attention, il y a un lâcher de serre. Bonsoir. Sur la limite.
Bonsoir.
Ok, t'as des oreilles, j'ai une bouche.
Je l'en fasse.
Attends, arrête dans le genre. Moi, il griffonne pas.
Bonsoir.
Salut.
J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette, mais bientôt j'arrête. Je me frotte les mains, c'est maintenant, demain. Je vais pouvoir me construire un bel avenir. Mais là je sais pas ce qui se passe, commande un verre, son petit frère, un pour la route, un pour le retour, m'accroche au bar, c'est là qu'on se marre. Je parle d'amour à des gens sourds, arrive le soir, je peux plus boire, me suis montré. Encore raté, j'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde, j'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est la vie en vis qui se fout, mon avis. Pourtant dans mon ventre aujourd'hui je rencontre. J'ai la tête en fleurs, elle me voit, elle meurt. D'amour va sans dire, pour elle je peux mourir. On s'accroche les yeux, puis on fait des vœux. Nous deux ça sera grand, moi jamais je mens. Confonds-toi en moi, je suis fondu. Toi mon petit canari, je t'emmène à Paris. Mais là je sais pas ce qui se passe, car sur la route là que je m'en croûte, pour que qu'il y a même, je vois pas la peine, elle est trop bonne. Elle doit être conne, j'ouvre la portière, puis au derrière ma petite amie est embrouillée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'aimais. Je veux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. Je suis toujours à faire une chose, le contraire. Je sais pas ce qui se passe, je dois être à la masse. Bon vouloir se meurt, monsieur le docteur. Et vous allez m'aider, je saurais vous payer. Je veux qu'une seule chose, c'est que ma tête se repose. J'ai plutôt dans le fond un gentil garçon. Moi je veux y parvenir à mon bel avenir. Mais là, je sais pas ce qui se passe, ça sert à rien, dit le médecin. C'est chez vos larmes, rouge cette dame, voyez les balles, ça peut faire mal. La croix à tête, qui en fait une tête, la main à terre, sa gueule à terre, y est mal barré.
Je le dirai.
J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. Je remonte sans cesse le comptoir de mes rêves. Et là je me stoppe et je regarde. Tellement de gens différents. Des pas marrants, oh pas mariés. Oh marins qui n'aiment pas ramer. Oh marins qui n'aiment pas ramer. Et ces maisons qu'on ne finit pas. Et ces maisons qu'on ne finit pas. Qu'on emménage de poste de télévision. Qui me servent à rien pour que je te rends compte. Que tu lui parles, lui poses la bonne question. Qu'il n'ose pas entendre la réponse. Qu'il n'ose pas entendre la réponse. Et ces bateaux qui ne partent pas. Et ces bateaux qui ne partent pas. Et ces maisons qu'on ne finit pas. Que l'on envisage et qui ne nous plaisent pas. Une fois terminées, alors hop, on s'en va. Et les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants. Oui, les ruines qui restent là et pourrissent à côté de nos têtes d'enfants. Oui, ces fusils qui ne se taisent pas. Et ces fusils qui ne se taisent pas. Ces messagers de Dieu qui ne nous veulent pas. Parce qu'on n'est pas comme ça. Ou qu'on n'a pas le même baptême. Ou qu'on gagne pas les mêmes batailles. Qu'on n'a pas le même baptême. Ou qu'on gagne pas les mêmes batailles. Et moi je taille la pierre à main nue. Dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et moi je taille la pierre à main nue. Dans tout cela avec ma tête pour enfant. Et mes rédacteurs dans ton cinéma où mon rôle serait d'être amoureux de toi. Où mes bras en une tanière abriteraient le paradis. Que font-ils je t'aime, que sont-ils je t'aime, que font-ils je t'aime, que sont-ils je t'aime, que sont-ils je t'aime. Et ces fusils qui ne se taisent pas. Et ces maisons qu'on ne finit pas. Et ces bateaux qui ne partent pas. Et ces bateaux qui ne partent pas. Et bah tant pis pour on y va. Allez là, on ira. On soufflera dans les voiles même s'il faut. T'inquiète, allez, c'est parti. La tête posée sur une bouteille d'eau de. Je remonte à tes bras.